Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière visite radiophonique de cette saison avec Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire Mandelotan Gévaudan qui m'accompagne pour clôturer cette saison. Bonjour Béné.
Bonjour.
Et une nouveauté, on change d'équipe aujourd'hui avec Samuel Caldier, archiviste de la ville de Mende, historien passionné. Tu peux te présenter Samuel ?
Mais comme tu as dit Ludo, je suis Samuel Caldier, je suis archiviste à la mairie de Mende depuis 2010. Après avoir fait des études d'histoire à la fac de Montpellier, eh bien, j'ai travaillé pendant 10 ans aux anciens combattants à développer des actions de mémoire sur le thème des conflits contemporains. Et me voilà à la mairie de Mende archiviste où je développe encore des actions de mémoire sur les mêmes thèmes.
Alors ça nous donne quelques indications, Béné, peut-être sur le thème de cette dernière émission de l'année. Tu nous amènes où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va aller à Mende. C'est vrai que nous avons beaucoup visité Mende, mais aujourd'hui c'est une visite radiophonique un peu particulière. Nous allons voyager dans le temps pour se souvenir d'une période de l'histoire qui a marqué la ville de Mende et ses habitants.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, on est arrivé, très peu de route, on peut même l'avouer, mais on est monté à pied. On est arrivé où, Béné ?
Alors nous sommes devant l'hôtel de ville de Mende, place du Général de Gaulle. Et nous allons parler de la ville de Mende durant la Seconde Guerre mondiale et de ces Mendois qui ont résisté. Alors peut-être que je vais laisser la parole à Samuel qui va nous en dire un peu plus.
Alors nous sommes dans une période particulière puisque nous allons bientôt célébrer les 80 ans de la libération de Mende. Donc avec Bénédicte, on a eu l'idée d'organiser comme ça des visites qui mélangent à la fois le patrimoine, ça c'est la partie pour Bénédicte, et la version, on dira, un peu plus contemporaine de la résistance. Ça sera plutôt ma version à moi, voilà.
Alors là, on est ici sur cette place Charles de Gaulle. Pourquoi ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors si tu veux bien, Ludo, avant de te dire ce qui s'est passé, on va juste décrire ce lieu et revenir sur son histoire. Alors ce lieu, cette place du Général de Gaulle, c'est vraiment une zone en pente. C'est aussi un carrefour. Il y a quatre artères qui s'y rencontrent. Tu as l'allée Piancourt qui vient du nord. Tu as la Nationale 88 qui vient de l'est. Le boulevard du Soubeyran qui vient du sud. Et le boulevard Lucien Arnault qui se dirige vers l'ouest. Alors cette place existe depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, quand la ville était entourée de remparts, il y avait ici, sur cette place, une porte d'entrée de la ville, la porte d'Angiran. Et d'ailleurs, cette place s'appelait la place d'Angiran. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les diligences en provenance d'Auvergne ou du Vivarais arrivaient ici et les voyageurs séjournaient à l'hôtel Manse, un des plus anciens de la ville. La place va être réaménagée après la destruction des remparts au XVIIIe siècle et agrandie au début du XIXe. Elle va servir à de nombreuses manifestations, des manifestations festives, mais c'est également ici qu'on a installé la guillotine à la Révolution française. L'hôtel de ville, alors, il domine cette place. C'est un immeuble du XVIIIe siècle. C'est un ancien hôtel particulier qui a appartenu à la famille Moret de Charret. Alors ensuite, il va être vendu à la Révolution comme bien national. Et en 1851, il est racheté par la commune qui le transforme en hôtel de ville. Alors on se rend bien compte que cette place est un carrefour. Et là, on va voir que l'hôtel de ville qui va devenir exigu en 1999, on va l'agrandir et on va construire de l'autre côté de la route la mairie annexe. La mairie annexe actuelle prend l'emplacement d'une maison du XVIIIe siècle.
Par rapport à cette mairie annexe, avant, il y avait une autre demeure qui est une ancienne demeure bourgeoise du XVIIIe siècle. Est-ce que Ludo, tu as déjà entendu parler de son nom ? Comment on appelait cette maison ?
Non, je n'en ai aucune idée.
Alors, jusqu'en 1997, où elle a été détruite pour construire cette mairie annexe, on l'appelait encore la maison carrière. Mais, en fait, au moment où elle est devenue la maison, la propriété de M. Carrière, pendant plusieurs siècles, elle a été la propriété de la famille Bourillon. C'est-à-dire qu'elle a été achetée en 1787, à la veille de la Révolution. Et pendant plus de 100 ans, et bien, toutes les générations des Bourillons se sont succédées et ont vécu dans cette maison. pour bien que les auditeurs s'imaginent comment était cette maison, elle se situe juste en face de la mairie de Mende. Il faut savoir que dans la famille Bourillon, durant la Troisième République, il y a au moins 3 membres de la maison Bourillon qui sont devenus maires de Mende. Et l'objectif un peu de notre visite d'aujourd'hui, c'est de parler du dernier d'entre eux, Henri Bourillon, qui a été maire de Mende de 1929 à 1941.
Il y a eu plusieurs dénominations de places, hein. On parle de Charles de Gaulle, tu as parlé d'Angiran, il y a eu Maréchal Pétain aussi.
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mairie de Mende a connu plusieurs maires et a connu une époque un peu difficile avec la guerre, puis le changement de régime, c'est-à-dire le changement de l'ordre républicain au régime de l'État français sous Vichy. Et donc, à ces occasions de changement, eh bien, on s'aperçoit que la place a changé de nom plusieurs fois. 1941, Henri Bourillon, qui était maire depuis 1929, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est occupé de gérer la ville durant la guerre, lorsque la France était encore en état de guerre. Et en 1941, lorsque le régime de Vichy était installé déjà depuis plusieurs mois, arrivait le moment où devait y avoir des élections, sauf que nous ne sommes plus sous l'ordre républicain, nous sommes sous l'État français. Et le gouvernement de Vichy va décider de nommer des maires et de nouveaux conseillers municipaux qui lui sont favorables. À partir de là, Henri Bourillon va être démis de ses fonctions et on va placer un nouveau maire, un nouveau conseil municipal qui soit favorable à l'État de Vichy. Quelle est la première décision de ce conseil municipal? C'est de tout simplement changer le nom de la place d'Angiran. Elle va devenir place Maréchal Pétain, place du Maréchal Pétain. C'est assez intéressant parce que en 1944, quand ce même conseil municipal va devoir démissionner parce que nous serons au moment de la libération, le nouveau conseil municipal, alors qu'on appelle à l'époque le conseil local de la libération, qui est dirigé par Jean Mazel, lui va prendre comme première décision de changer le nom de la place Maréchal Pétain et il va donner le nom de la place du général Charles de Gaulle.
Voilà, qu'on connaît encore à l'heure actuelle.
Voilà, exactement.
Donc là, on se situe à l'heure de la fin de la guerre, de la nomination de cette place, place Charles de Gaulle. Tu parlais d'Henri Bourillon, on sait que c'est un grand résistant. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les résistants lozériens, les résistants mondois?
Alors, il faut savoir qu'au début, la résistance, ce sont des hommes qui décident de faire quelque chose. Pourquoi faire quelque chose? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ne sont pas d'accord avec l'instauration du régime de Vichy, avec les lois que promulgue le régime de Vichy, les lois contre les Juifs, les lois qui obligent des jeunes à partir travailler en Allemagne pour participer à l'effort de guerre allemand. Ce sont des gens qui, à partir de 1942, quand les Allemands viennent occuper toute la France, parce qu'il faut savoir que Mende, de 1940 jusqu'à 1942, était en zone libre. Donc, elle n'était pas concernée par l'occupation allemande. À partir du 11 novembre 1942, les choses changent. Les Allemands viennent s'installer ici à Mende, notamment à Lozère, mais ici à Mende, pourquoi? Parce que c'est une ville préfectorale, donc c'est le lieu de décision à part entière sur tout le département. Donc, ils vont s'installer dans tous les établissements publics qu'ils peuvent trouver, qui vont être réquisitionnés pour pouvoir accueillir toutes les troupes de Mende. Et ça, il y a des gens de tout horizon qui ne peuvent accepter cet état de fait et qui vont se dire « il faut faire quelque chose ». Et la résistance va commencer comme ça, tout simplement à travers des petites réunions qui vont être organisées de nuit, clandestinement, pour se dire « qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se rassembler ?» Et petit à petit, de ces réunions vont naître la nécessité tout simplement de créer des petits groupes, des cisaines, de chercher des résistants qui sont dans des administrations, des résistants dans le milieu rural, des résistants un peu partout, qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent faire quelque chose. Pour tout ça, tout simplement lutter contre le régime de Vichy, lutter contre les Allemands et préparer la libération de Mende. Et ça passe par des gestes très simples, ça peut être écouter la radio de Londres, chose qui était interdite à l'époque. Ça peut être tout simplement pour diffuser des tracts ou des journaux clandestins comme le mouvement Combat. Par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de la maison Bourillon, c'est dans la cave du père d'Henri Bourillon que vont être cachés pas mal de tracts et de journaux. Et ils vont être diffusés un peu dans les boîtes à lettres de tous les résistants qu'on connaît. Mende est une petite ville encore, 7000 habitants. Même s'il y a 5000 au plus fort de 5000 soldats allemands qui vont s'installer au plus fort de l'occupation. Voilà, Mandres est une petite ville. Et comme ça, ben voilà, des réseaux vont se créer. Et petit à petit, la résistance va s'organiser au point de vue local, puis petit à petit au point de vue mandois, puis petit à petit au niveau départemental. Et à partir de là, quand elle va être créée au niveau départemental, on va voir que certaines personnalités fortes vont être les cadres de cette résistance départementale. Et parmi eux, ben, on peut citer Henri Bourillon, qui va devenir le chef incontesté politico-militaire au début de la résistance. Et puis, il va y avoir d'autres noms qui vont être mis en valeur. D'ailleurs, ils ont laissé leur nom à quelques établissements publics d'Amande. Ludo, est-ce que tu as entendu parler de quelques résistants qui ont laissé leur nom ?
Alors, Pétavin ?
Émile Pétavin pour le lycée avenue du 11 novembre.
Alors, plus difficile, Jean Mazel ?
Jean Mazel qui a laissé le nom. Alors, pour le nom exact, je vais encore me tromper, mais ce sont grosso modo les réserves du musée du Gévaudan.
Allez, on va se balader, on va se promener un peu dans la ville de Mende. Tu parlais de lieux emblématiques de cette époque. On va justement vous en faire découvrir un. Allez, on vient de descendre l'allée Piancourt et on se retrouve où du coup ?
Alors l'allée Piancourt, c'est un axe de circulation important pour la ville de Mende. Ludo, est-ce que tu te rappelles qui est Monseigneur de Piancourt ?
Oui, un évêque de Mende.
Monseigneur de Piancourt, Monseigneur François Placide de Baudry de Piancourt, son petit nom, est évêque de Mende entre 1677 et 1707. C'était un grand administrateur et on lui doit de nombreux aménagements dans la ville. On lui doit notamment la construction de l'hôpital, qui est aujourd'hui la résidence Piancourt. Tu t'en rappelles parce que vous avez visité la pharmacie. Et Monseigneur de Piancourt va aussi œuvrer pour la salubrité de la ville en travaillant sur le réseau d'eau et les fontaines. On en avait aussi parlé pour la visite fontaine. Et à la fin du XVIIe siècle, il fait don d'une partie du pré épiscopal pour permettre d'aménager ici une allée plantée de peupliers. Alors ce sont des peupliers noirs d'Italie et cette plantation va avoir lieu vers 1694. Alors cette promenade qui est aménagée va partir de la place d'Angiran qu'on a visité tout à l'heure et qui va aller jusqu'au pont de Berlière qui est construit pour l'occasion en 1695. Et on longe deux prés appartenant au diocèse, le pré Clos et le pré Vival.
Oui, je crois que j'ai déjà vu des cartes postales anciennes qui montrent cette promenade. Ça a beaucoup changé aujourd'hui.
Oui, les arbres sont coupés dans les années 1950, au moment où l'on souhaite agrandir la route. Ils sont remplacés par un alignement discontinu d'érables. D'ailleurs, Ludo, tu as déjà proposé une visite radiophonique sur ce quartier pour expliquer l'évolution qui a changé ce quartier au début du XXe siècle. Et en fait, il faut vraiment imaginer qu'à la fin du XIXe siècle, ce quartier de Mende n'est pas du tout urbanisé. Il y a ici des prés, des vergers, des jardins. Et l'arrivée du chemin de fer en 1884 va aller accélérer ce rond développement. Et on peut encore observer des bâtiments qui conservent des lignes modernes et une architecture typique du début du XXe. Au bas de l'allée, il y a la maison Peyre, emblème du développement du quartier. Un peu en retrait, il y a aussi le grand hôtel, qui a été inauguré en 1929. Et juste ici devant nous, un petit peu à l'abri de l'allée Piancourt, nous avons la maison Lyonnais. Alors, il faut imaginer à l'époque que ces constructions sont à la pointe de la modernité. Elles sont composées de grandes pièces lumineuses et répondent vraiment aux besoins de l'époque. On a l'électricité, on a l'eau courante. La maison Lyonnais, elle est imaginée par Jean-Antoine Lyonnais, qui est architecte des monuments historiques de la Lozère. Jean-Antoine Lyonnais est architecte, mais cette maison n'est pas seulement intéressante pour son architecture. Et je laisse la parole à Samuel pour nous dire pourquoi elle est intéressante.
Était intéressante puisqu'elle est la propriété de Jean Lyonnais. Et Jean Lyonnais, en fait, comme Henri Bourillon, comme Émile Pétavin dont on a parlé tout à l'heure, il est l'un de ces premiers résistants qui décide de faire quelque chose. Alors, autant Henri Bourillon, c'était la partie politique de la résistance, c'est lui qui a préparé la libération, il a été nommé préfet de la libération, autant Émile Pétavin, c'était la partie, je dirais, armée de la résistance. Jean Lyonnais, lui, c'est un autre pan de la résistance qui est très méconnu, c'est le NAP. Sais-tu ce que c'est le NAP, Ludo ?
Le NAP ? Non, je ne sais pas.
Tout simplement le noyautage des administrations publiques. C'est-à-dire que dans chaque administration, on va essayer de trouver un résistant qui puisse apporter les bons renseignements pour la résistance et qui puisse œuvrer contre l'ennemi. Voilà. Et Jean Lyonnais, il a dû s'occuper de ça. Autre chose par rapport à Jean Lyonnais, faire cet acte de résistance-là, c'était prendre le risque d'être arrêté. Et il y a une date très importante dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici, c'est le 28 février 1944. Ce jour-là, la Gestapo, en lien avec l'intendant de police régional, M. Marty de Montpellier, vont organiser un coup de filet départemental pour essayer de démanteler toute la résistance lozérienne. Et à Mende, ils vont venir essayer d'arrêter Jean Lyonnais, Émile Pétavin, Jean Mazel et Henri Bourrion. Pour les trois premiers que j'ai cités, heureusement pour eux, ils n'étaient pas chez eux, donc ils ne seront jamais arrêtés. Ils vont réussir à échapper à leur arrestation. En revanche, pour Henri Bourrion, qui était chez lui, il va être arrêté, il va être torturé par la Gestapo et il va être envoyé à Montpellier pour être de nouveau interrogé par la Gestapo de Montpellier. Et à partir de là, il sera déporté en Allemagne et il finira par mourir lors des marches forcées au moment de la libération des camps de concentration. Il finira par mourir de faim, d'effort, etc. Il ne verra jamais la libération de Mende.
Donc c'est une maison empreinte de résistance, mais aussi une maison qui est tombée aux mains de l'ennemi et où s'est passé des choses terribles.
Tout à fait. Juste après le 28 février 1944, la Gestapo, qui était venue fouiller la maison Lyonnais, a décidé de prendre possession de cette maison. Ça a duré plusieurs mois, puisque la famille de Jean Lyonnais refusait. Et finalement, au mois de mai 1944, ils vont venir prendre possession de cette maison. Ils vont installer leur bureau. Et dans les caves de celle-ci, ils vont interroger, ils vont torturer beaucoup de résistants, pas mal de maquisards qui ont été arrêtés par les forces de répression.
Et qui auront été fusillés après, un peu plus loin, après Badaou?
Alors là, on parle de maquis très particulier, il y en a eu d'autres. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est malheureusement le fait le plus tragique de cette maison lyonnaise, puisque ça nous permet de parler d'un maquis qui est né bien loin de la Lozère, un maquis qui est né du côté de Toulouse, et qui avait comme mission simplement de devenir un maquis armé. Et ce maquis armé va être sans cesse traqué par les polices, par les Allemands, et va devoir se déplacer sans cesse. Et à un moment donné, ils vont rejoindre les Cévennes, où ils vont s'installer provisoirement. Et là, la pression des troupes d'occupation va être telle qu'il va y avoir des combats qui vont être engagés dans un premier temps au mois d'avril 1944 du côté de Saint-Étienne-Vallée-Française, puis au mois de mai sur le Cosmé-Jean à Hurlaparade, où là, le maquis va être totalement encerclé, parce qu'il va être dénoncé à la gendarmerie de Méruez, qui va faire passer le message à la gendarmerie départementale, qui va faire passer le message lui-même au préfet de la Lozère, qui lui-même fera passer le message aux autorités allemandes, aux troupes d'occupation. À partir de là, il va y avoir les troupes d'occupation vont lancer l'encerclement de ce maquis. Ce maquis, à ce moment-là, faisait autour de 70-80 hommes. Donc il va y avoir des combats qui vont durer toute la journée. Sur place, il va y avoir environ, on compte à peu près 35 morts, 15 maquisards qui vont réussir à s'échapper et 27 maquisards qui vont rendre les armes et qui vont se constituer prisonniers auprès des troupes allemandes. Les troupes allemandes vont leur promettre que ce sont tout simplement des prisonniers qui seront bien traités, sauf que ramenés ici à Mende, ils vont les laisser aux mains de la Gestapo. Et la Gestapo va durement interroger, va torturer tous ces 27 maquisards. Et le lendemain matin, ils vont les amener du côté de Badarou, dans le ravin de la Tourette, et les exécuter, les fusiller.
Voilà, donc ça, cette maison, pour ceux qui ne savent pas où elle est, elle est en face du groupe scolaire, le groupe scolaire qui se dénomme
Jean Bonijol. Et pour faire un petit lien entre ces deux bâtiments, le groupe scolaire a été construit bien après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Mais devine qui est l'architecte départemental qui a fait les plans de ce bâtiment?
C'est Lyonnais.
C'est Monsieur Lyonnais, exactement.
Alors l'autre lien, c'est peut-être le parcours de résistant de Jean Bonijol, donc qui a donné son nom au groupe scolaire en 2011, exactement, lorsque l'on a créé justement le parcours de mémoire sur la résistance à Mende. Et à la suite de ça, donc, il a donné son nom au groupe scolaire. Et Jean Bonijol, c'est quelqu'un qui est né du côté de Montbrun, qui a vécu dans les Cévennes toute sa jeunesse et qui est venu ici à Mende pour devenir instituteur. Donc il voulait faire ses études et passer le concours avec l'école normale. Sauf que le régime de Vichy a décidé de supprimer l'école normale. et qu'à la place, eh ben, ils souhaitaient tout simplement former militairement les petits jeunes à travers des exercices physiques et tout ça. Et puis, ceux qui étaient en âge de faire leur service militaire, d'aller les faire travailler en Allemagne. Monsieur Bonnejol, bien sûr, ne voulait pas aller partir travailler en Allemagne. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a décidé de tout simplement entrer dans la clandestinité et d'aller se cacher dans les Cévennes. Il est devenu ce qu'on appelle réfractaire. À partir de là, eh bien, il a commencé à intégrer des groupes de résistants et puis il a intégré ce qu'on appelle le fameux maquis école de la Picharlerie, c'est-à-dire une sorte de maquis qui forme des groupes, des cadres de la résistance, des maquisards, pour la libération. À partir de là, eh bien, il va s'occuper tout simplement du ravitaillement de ce maquis école. Il va avoir comme mission après d'aller chercher, d'organiser des parachutages, soit d'armes, soit d'agents, soit enfin, tout ce qui peut compter pour la résistance. Et puis après, il va suivre la libération de la Lozère avec la résistance, avec les membres de la résistance. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où il quitte le maquis de l'école de la Picharlerie, c'est peu de temps après, à 15 jours près, là que le maquis de Bir Hakeim s'installe juste à ce fameux maquis école de la Picharlerie. Donc vous voyez, le relais est un peu donné. Voilà. Après-guerre, il va devenir instituteur dans plusieurs écoles et notamment ici au groupe scolaire, jusqu'à même devenir le directeur du groupe scolaire.
Pour terminer sur cet endroit, je t'ai parlé des maquisards qui ont été fusillés dans le ravin de la Tourette. Il y a une série de sculptures qui fait l'angle qui représente ces maquisards. 27, tu disais, Samuel ?
27 maquisards, oui, qui ont été fusillés. Et c'est une sculpture qui a été réalisée en 2017, qui est juste sur, je dirais, le carrefour de l'entrée vers la rue des Clapiers. Et ça représente un peu, avec du fer forgé, on peut s'imaginer tout ce que ça peut représenter, mais grosso modo, des fleurs, des plantes, bref, quelque chose de fragile, à savoir la vie des maquisards qui ont été fusillés par la Gestapo. Et au pied de chaque sculpture en fer, il y a le nom d'un résistant. Et quand on regarde de plus près ces noms, on s'aperçoit qu'il y a des noms très lozériens, puisqu'il y a des jeunes lozériens qui ont rejoint le maquis du Bir Hakeim au dernier moment, qui ont été malheureusement fusillés pour eux, qui sont morts. Mais il y a aussi pas mal d'autres résistants, et notamment d'origine étrangère. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité un peu de ce maquis, c'est que beaucoup d'étrangers ont rejoint ce maquis parce que c'était un maquis qui était partisan de l'action immédiate. Et ce qui fait la spécificité aussi des maquis de Lozère en général, c'est que le premier maquis de Lozère qui a été formé ici en Lozère, c'est tout simplement un maquis d'antifascistes allemands. Ce sont des étrangers qui ont constitué le premier maquis en Lozère. Et ça, on le sait peu. On croit toujours que ce sont les jeunes qui ont refusé de partir travailler en Allemagne qui ont formé les premiers maquis. Non, en Lozère, le premier maquis qui a été formé, c'est un maquis d'antifasciste allemand.
Allez, donc on est en cœur de ville, on est sur la place Urbain 5. Alors, on est devant la cathédrale de Mende, on a déjà parlé dans une visite de la cathédrale de Mende. Mais là, pour les 80 ans de commémoration, pourquoi on est ici, Béné ?
Alors, moi je vais laisser la parole à Samuel pour te parler de la commémoration. Mais juste, oui, on connaît très bien cette place, les Mendois la connaissent très bien aussi. On est au centre de la ville. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est qu'autour de nous, il y a des lieux de pouvoir importants. On a le pouvoir religieux avec la cathédrale, évidemment. On a le pouvoir politique avec la préfecture et l'hôtel du département. Mais il y a aussi le pouvoir judiciaire avec le palais de justice. Par contre, on connaît moins son histoire durant la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est pour ça qu'on a Samuel avec nous aujourd'hui qui va nous éclairer dessus.
Exactement.
Oui, mais comme vous l'a dit Bénédicte, donc ce sont des lieux de pouvoir. Quel pouvoir est en place à cette époque-là ? C'est le régime de Vichy qui est entré dans la voie de la collaboration. Ce qui fait que, ici en Lozère, ce qui caractérise la Lozère, c'est que certains, représentants de ces administrations ou de ces pouvoirs ont collaborer avec l'ennemi, ce qui fait que là nous nous trouvons face à la cathédrale. Il faut savoir que l'évêque, Monseigneur Viti, fait partie des trois évêques en France qui ont été obligés à démissionner après la guerre, tout simplement parce que lui avait encouragé les jeunes à aller travailler en Allemagne plutôt que de s'y opposer comme d'autres évêques. De même, il ne s'est jamais interrogé ou senti meurtri quand les personnes juives ont été arrêtées par le régime de Vichy, contrairement à certaines de ses pairs dans d'autres départements.
Que trois en France ?
Trois en France, oui. Ouais. Après, elle vous a parlé tout à l'heure d'autres lieux de pouvoir, c'est la préfecture qui est censée appliquer les lois de l'État en place, donc du régime de Vichy. Il faut savoir que le préfet de l'époque qui avait été nommé par le régime de Vichy, qui s'appelait Roger Dutruche, a été le préfet qui a donc dénoncé le maquis de Bir Hakeim dont on a parlé tout à l'heure. Et à la libération, eh bien, il a été jugé par le tribunal martial et il a été condamné à mort, il a été fusillé. Donc, une fois que je vous ai dit ça, je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir sur cette place-là. Pour autant, dans ces lieux, je dirais, qui représentent le pouvoir du régime de Vichy, il y a des hommes qui ont fait des actes de résistance aussi divers que ce qui était possible de faire. Je parlais de la cathédrale de Mende, donc du clergé. C'est vrai que le clergé, dans son ensemble, était favorable aux valeurs du régime de Vichy, au maréchal Pétain. Pourtant, il y a des prêtres qui ont décidé d'entrer dans la résistance. Je pense au père Paloc, qui a été déporté, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a été déporté. Je pense au chanoine de Montgros, qui, lui, a été obligé d'entrer dans la clandestinité parce qu'il allait être arrêté. Inversement, dans la préfecture, il y a des gens qui travaillaient dans la préfecture et qui ont travaillé pour la résistance. Et là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux nappes. Il y a par exemple le chef de bureau de la préfecture, Urbain Paradis. Et son rôle, ça a été dans les premiers temps de trouver tout simplement des caches pour les jeunes qui devaient aller partir travailler en Allemagne pour qu'ils puissent se cacher. Et puis après, pour le reste, tout simplement donner le maximum d'informations à la résistance qui était possible. Sur les décisions du régime de Vichy, sur les décisions des Allemands, etc. Et c'est une forme d'espionnage. Et c'est vrai que la guerre de l'information était une chose très, très, très importante entre la résistance et les forces de répression. Il y a un autre lieu dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est tout simplement l'hôtel de police. Et dans ce commissariat de police, eh bien, il y avait un homme, un commissaire de police qui s'appelait Pierre Lorenz, et qui lui, par contre, ne faisait pas partie du NAP, mais à titre personnel, il a fait des actes de résistance. Le premier qu'il a fait, c'est tout simplement quand les Allemands sont arrivés ici à Mende, on a dû mettre des panneaux de direction en allemand. Et des jeunes, bien sûr, avaient retiré quelques panneaux de direction en allemand. Et du coup, on lui a demandé de faire une enquête. Ben, lui s'y est opposé, disant que ce n'était pas de sa juridiction. Bref, il n'a pas voulu faire d'efforts en ce sens. Deuxième acte de résistance très important, c'est quand on lui a demandé de créer une liste des personnes juives. Et il a refusé de créer et de fournir cette liste des personnes juives aux autorités allemandes. Donc vous voyez, ce sont des actes très importants. Et il faut savoir que plus la guerre avance, plus les Alliés se rapprochent un peu du dénouement de la Seconde Guerre mondiale, et bien la pression devient de plus en plus forte. Et lorsque le 6 juin a lieu le premier débarquement en Normandie, les Allemands sont sur le qui-vive, le régime de Vichy est sur le qui-vive, et là il y a vraiment énormément d'arrestations qui sont opérées. Et si nous nous sommes arrêtés sur cette place Urbain 5, c'est que le 9 juin, 4 personnes ont été arrêtées, à savoir Urbain Paradis dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir Pierre Lorenz, le commissaire de police, mais également Paul Martin qui travaillait à l'office de ravitaillement en charbon, et Paul Maury, qui était docteur et maire de Florac. Ces 4 personnes-là vont être arrêtées, vont être données à la Gestapo, vont être durement interrogées pour ne pas dire torturées. D'ailleurs, Urbain Paradis, qui était très mal en point, va être soigné dans sa propre cellule par son camarade Paul Maury, qui était docteur. Et ces 4 personnes-là vont être déportées en Allemagne. Heureusement, fort heureusement, les 4 personnes, elles, reviendront de déportation.
Allez, on vient de sortir du centre-ville, on vient de remonter au niveau de la Providence. La Providence, ça me dit quelque chose, mais on en a parlé lors d'une visite, il me semble, du château du Boy, non ?
Waouh, mais quelle mémoire, Ludo ! Effectivement, c'est bien la même institution. La maison de la Providence à Mende, en fait, elle a été fondée en 1820 par 2 mendoises, Rose Bourillon et Victoire Bergougne. Et cette institution, elle a été fondée pour venir en aide à l'enfance malheureuse. Alors, après la débâcle de 1940, en fait, le nombre de jeunes filles accueillies à la Providence a fortement augmenté même. On avait des enfants des grandes villes du sud, comme des villes de Montpellier ou de Marseille, qui sont venues ici. Elles ont également accueilli des réfugiés du nord ou du Pas-de-Calais. Elles ont aussi accueilli des orphelines dont le père était parti sur le front, des orphelines dont les parents étaient prisonniers ou déportés. Et en fait, il y avait une quinzaine de religieuses qui s'occupaient de plus de 80 filles âgées de 3 à 18 ans durant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors si nous sommes là aujourd'hui devant la Providence, c'est tout simplement parce que pendant la guerre, le couple Hoffmann était un couple juif, donc avait deux petites filles, et traqué par le régime de Vichy et par les Allemands, ils ont décidé de venir se cacher ici en Lozère et pour ne pas être pris, ont décidé de cacher leurs deux petites filles ici à la Providence. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le chanoine Copper qui s'en occupait avec plusieurs sœurs, dont sœur Émilienne. Et il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui étaient au courant de l'existence de ces deux petites filles. Tous les autres ne savaient pas que ces deux petites filles étaient des enfants juifs. Donc je parle de Gabi Hoffmann et de sa sœur. Donc pendant toute la guerre, elles sont restées cachées ici. Quand on a interrogé sœur Amienne, elle nous dit qu'un jour, ils ont eu la visite des Allemands qui étaient venus, on ne sait pas trop pourquoi, visiter les lieux. Donc le réflexe a été tout simplement de cacher très vite les deux enfants juifs pour le cas où les Allemands les trouveraient toutes les deux. Et finalement, bon, cette visite, bien sûr, n'a pas eu de conséquences. Et à la libération, eh ben, les deux filles sont parties de la Providence, ont grandi. Et dans les années 90, Gabi Hoffmann avait décidé de venir chercher les personnes qu'il avait sauvées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en faisant ses recherches, elle est venue ici à Mende et elle a renoué contact avec sœur Emilienne qui était encore en vie. Et à partir de là, c'est cette période-là où ils ont tout simplement apposé la plaque que l'on vient de voir aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté là parce que vous savez qu'il existe depuis la libération un comité en Israël qu'on appelle le comité Yad Vashem qui remet le titre de juste parmi les nations aux personnes qui ont caché des personnes juives. Et Gabi Hoffmann va tout faire pour que sœur Emilienne, le père Copper et sœur Marie-Rose puissent obtenir le titre de juste parmi les nations. Parce que ce comité considère que lorsqu'on sauve une vie, on sauve l'humanité entière. Et le dossier va suivre son cours, et c'est en 2011 que, tout simplement, le chanoine Copper et sœur Emilienne et sœur Marie-Rose vont recevoir, alors pour les deux premiers à titre posthume, sœur Emilienne, elle va recevoir le titre de juste parmi les nations. Et l'année suivante, en 2012, elle va se rendre avec Gabi Hoffmann en Israël pour recevoir ce titre-là. Bon, mais depuis, sœur Emilienne était notre dernier témoin. Malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques semaines, en 2024. Donc, on n'a plus de témoins de cette époque-là. Mais il faut savoir que Mende, comme partout en Lozère, il y a eu comme ça des familles ou des institutions catholiques ou scolaires, etc., qui ont caché des enfants juifs pour pas qu'ils ne soient pris par les Allemands. Et tous ne sont pas reconnus parce qu'il faut toujours que la personne qui a été sauvée fasse ce dossier-là.
Allez, dernier arrêt pour cette émission. Bien sûr, on ne pouvait pas faire une émission sur ce thème-là sans finir devant le monument aux morts.
Oui, oui. Alors, mais d'abord, hein, on est sur le foirail. Et donc, Ludo, tu avais déjà mené une visite radiophonique avec Caro et Nelly, les chefs, hein, sur le foirail, justement. Alors, tu te rappelles que la place du foirail, c'est une création contemporaine ? Alors aujourd'hui, c'est un vaste parking, mais il faut se rappeler que jusqu'en 1912, c'était un immense champ qui appartenait à la famille de Ligonnès. Et il devient propriété de la ville et cet espace va avoir de nombreux usages et va être utilisé pour de nombreuses activités. Au cours de la Première Guerre mondiale, afin de permettre à la population de subsister, on va y cultiver des pommes de terre. Alors par la suite, hein, l'enclos sera divisé en deux. La partie proche du boulevard va devenir le foirail, hein, pour la vente du bétail lors des foires. Et l'autre partie sera transformée en jardin public. Alors à l'emplacement actuel de l'espace événement Georges Frêche, il y avait même un établissement de bain-douche qui est connu des Mondois sous le nom de Foyer Saint-Ilpide. Et enfin, on a au centre de la place le monument aux morts qui trône. Et en fait, il est remis à la municipalité de Mende le 11 novembre 1924. Mais Samuel, tu peux peut-être nous raconter son histoire ?
Oh, brièvement. Hein. Donc, bien sûr, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il avait été décidé d'ériger ce monument aux morts. Dans un premier temps, il a été érigé ici, au square Émile Joly, là où aujourd'hui on trouve le théâtre municipal. Et il a été érigé par un comité dont le président n'était autre que Augustin Joly, qui était le frère de l'ancien maire défunt qui est mort en 1918. Bon, il se trouve que Augustin Joly était également conseiller municipal, mais qu'il était dans l'opposition, donc il n'était pas trop proche, on va dire, du maire de l'époque, M. Paulin Daudet. Et cette rivalité va faire que M. Paulin Daudet voulait que le monument soit un peu mieux mis en valeur, soit mis à un autre endroit. Donc c'est chose faite, ce sera chose faite en 1928. Le monument aux morts va être déplacé un peu plus en amont sur le foirail, à la vue de tous les passants, avec un escalier qui l'entoure, un escalier magistral. Et depuis, toutes les cérémonies ont lieu devant ce monument aux morts, là.
On arrive vers la fin de cet épisode historique et notamment la libération de Mende, Samuel.
Oui, tout à fait. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Nous sommes au mois d'août 1944. Depuis le 15 août, il y a eu un second débarquement, le débarquement en Provence. Et à partir de là, les forces allemandes savent qu'elles vont devoir, petit à petit, au vu du succès de ces deux débarquements, battre en retraite. Donc elles sont encore plus, je dirais, sur le qui-vive. Et la résistance de ce côté va faire de plus en plus d'actions contre les forces allemandes. Ce qui fait que le 15 août 1944, jour du débarquement de Provence, il va y avoir un combat très important, très meurtrier à Barjac, où les résistants vont tomber dans une embuscade. Cette embuscade va faire 25 morts. Et parmi ces résistants réussiront à s'échapper, certains vont être repris le jour même ou le lendemain du côté de Chanac et vont être amenés ici à Mende pour à nouveau être durement et torturés par la Gestapo. Et nous sommes le 17 août, ce 17 août-là, il y a 4 résistants qui vont être fusillés ici au Meilley. Or, ce 17 août, c'est tout simplement la veille du départ des troupes d'occupation. Les Allemands décident de partir le 18 août 1944 pour aller rejoindre le reste de leur armée allemande pour battre en retraite. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils s'engagent sur la route qui va vers le Villefort pour rejoindre les troupes allemandes qui remontent la vallée du Rhône. Bien sûr, sur ce trajet qui mène jusqu'à Villefort, ils vont être à plusieurs reprises mitraillés par les avions alliés. Certains résistants vont essayer de faire des coups de main. Et certains otages qui avaient été pris par les Allemands, des otages mandois qui avaient été pris par les Allemands, vont réussir à s'échapper. Je pense notamment au résistant Charles Morel. Le 18, une fois que les mandois comprennent que les Allemands sont partis et ne reviendront pas, finalement, le 19, les forces françaises de l'intérieur pénètrent dans Mende. Donc, ils ont libéré Mende, mais sans combat. Et quel est le premier geste qu'ils vont faire? C'est tout simplement déposer une gerbe au pied du monument aux morts, au nom de tous les morts pour la France. À partir de là, c'est le retour à l'ordre public, c'est l'arrestation de certains collaborateurs, c'est l'organisation des administrations, la création du conseil local de la résistance, le conseil départemental de la libération et l'organisation des premières élections pour revenir à l'ordre républicain, en attendant bien sûr le retour des déportés ou des autres prisonniers qui ne reviendront qu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1945, après la capitulation allemande, le 8 mai 1945.
Merci Samuel. On va finir cette émission par l'actualité et la question pour briller en société. L'actualité, donc j'imagine, ça va être la fête pour, autour de cet événement des 80 ans de la libération de Mende.
Oui, nous avons organisé un programme assez conséquent pour les 80 ans de la libération de Mende. Le programme, il a lieu dans la semaine qui part du 18 août, à peu près, 19 août, jusqu'au 26 août. Et pendant cette semaine-là, il y aura plusieurs temps forts, à savoir des animations théâtrales, à savoir des conférences sur le thème de la libération, à savoir une cérémonie très importante avec des véhicules anciens, avec une exposition aussi qui aura lieu toute la semaine à l'espace Georges Frêche. Et puis également une soirée un peu plus conviviale avec une guinguette et une animation dansante avec des musiques de l'époque pour qu'on puisse terminer cette période de commémoration avec un peu plus gaiement. Voilà.
Béné, une question pour Brillant Société ?
Alors cette fois-ci, j'ai demandé à Samuel de nous trouver une très chouette anecdote et donc je lui laisse la parole.
Alors, très chouette, disons assez inédite. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la libération, mais là je vais vous parler de l'après-libération. Et il arrive que des fois, l'actualité nationale télescope l'actualité locale. Et donc je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Johanno Vici. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Ludo ?
Non, pas du tout, Béné, tu en as entendu parler ?
Eh bien, moi non plus.
Eh bien, je vais vous raconter son parcours assez étonnant. Joseph Joël Novici est une personne, est un enfant juif né du côté de la Moldavie, qui était à l'époque sous domination de l'Empire russe. Ses parents sont morts lors d'un pogrom organisé par le tsar de l'époque. Et du coup, il est devenu très 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 tôt orphelin. Il a essayé de s'en sortir comme il a pu, puis il s'est marié avec sa femme Eva. Donc tous les deux décident d'émigrer ici en France dans les années 20-30 et vont travailler dans l'entreprise qui traite les métaux ferreux dans la région parisienne. Donc Joseph Jonovici, qui ne sait pas lire, va petit à petit s'occuper de cette entreprise et va petit à petit faire fortune dans ce domaine-là. Arrive le moment de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande, et il se trouve qu'il va tout simplement augmenter sa fortune en vendant les métaux aux Allemands. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est une personne qui est juive, donc les Allemands possèdent son dossier comme quoi c'est une personne juive. Et de petit à petit, il va collaborer avec les Allemands et avec notamment aussi la police, la Gestapo française. Et il va continuer à faire fortune. Sauf que la fin de la Seconde Guerre mondiale arrivant, la libération de Paris approchant, il va aussi, avec sa fortune, financer un mouvement de résistance. Un mouvement de résistance des policiers de l'époque, et il va recevoir à Libération le titre de résistant et être décoré comme tel. Sauf que, bien sûr, en jouant le double jeu comme ça, et ben, il se trouve que certains vont s'intéresser un peu à son parcours, qui est plutôt atypique. Hein. Très peu de personnes juives ont pu s'en sortir à cette époque-là, surtout sous occupation allemande. Et il va être tout simplement mis en procès. Et donc il va être jugé, il va être enfermé à la prison de la santé. Et parmi sa condamnation, il va être assigné à résidence. Et devine où, Ludo, où c'est qu'il va être assigné à résidence?
J'imagine Amende.
Tout à fait, dans l'endroit le plus...
Trop fort.
Le jugé le plus coupé en termes de communication, le plus isolé, etc. Mais le plus fort, c'est que lui qui a beaucoup travaillé dans la région parisienne, donc on veut le couper de la région parisienne, où c'est qu'on l'a signé en résidence? Tout simplement à l'Hôtel du Paris. Lieu même où la Commandatour à l'époque avait installé son PC. Et donc de 1952 à 1957, Joseph Joanovici va participer un peu à ce qui se passe ici, à l'actualité locale, participer un peu aux matchs de foot, regarder les matchs de foot, rencontrer les élus, Monsieur l'évêque, Monseigneur l'évêque, etc. Et finalement, en 1957, il va décider de s'en aller, de partir. Or, il n'avait pas le droit de quitter la ville de Mende. Et il va, où c'est qu'il va aller? Tout simplement en Israël. Sauf que Israël a en main son dossier et ne va décider de ne pas le laisser devenir un habitant, enfin habiter ici là-bas en Israël. Donc il va être expulsé et retour à la case départ, retour en France. À partir de là, il va être rejugé, il va être condamné à de la prison. Et finalement, pour des raisons de santé, on va le laisser sortir de la prison. Et il va mourir dans le plus grand dénuement, dans un deux pièces, dans la région parisienne.
Super.
C'est un parcours assez inédit.
Bien, merci beaucoup sur cette belle émission, Samuel. Merci de nous avoir rejoints pour cette visite radiophonique.
Merci à vous.
Donc c'était la dernière émission de l'année. On ne va pas vous donner d'indices pour la prochaine, car elle sera en septembre dans 3 mois. On verra bien, ça sera la surprise. Merci Benet.
Ben, merci à toi et puis on se retrouve en septembre.